Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez dans ce nouveau numéro d'Univox, un Univox, eh bien, cette fois-ci réalisé par Radio Campus Rennes. Et dans cet épisode, nous allons eh bien, revenir sur quelque chose de pas forcément très drôle, mais dont il faut parler, c'est eh bien, l'interruption volontaire de grossesse. L'équipe de Radio Campus Rennes a fait appel à plusieurs invités. Eh bien, je laisse Aurore, maîtresse de cette émission, eh bien, vous les présenter et vous présenter l'ensemble de cette émission, de cette Univox spéciale interruption volontaire de grossesse. Très bonne écoute à tous, on se retrouve en fin d'émission. Voilà.
Alors qu'en Espagne, il y a en ce moment une loi qui est en train d'être mise en cause, alors qu'il y a des manifestations un peu partout en France, autour justement du droit à l'IVG, des pros, des contres qui s'affrontent. On a voulu faire un peu un état des lieux sur ce qui se passait d'un point de vue local en Ille-et-Vilaine. Donc en France, l'interruption volontaire de grossesse est devenue légale en 1975. Mais il ne s'agit pas d'un droit constitutionnel, donc il faut le rappeler, c'est-à-dire que le Parlement, à l'heure actuelle, a la possibilité de modifier le texte si besoin. Donc si sur le papier, l'IVG, c'est quelque chose qui est acquis, c'est vraiment dans son application concrète que tout cela va se jouer. Pour discuter de tout ça, on a deux invités en plateau. On a le docteur Vincent Lavoué, qui est gynécologue responsable du centre IVG à l'hôpital Sud de Rennes.
Bonjour.
Et on a également le docteur Marie-Catherine Volsan-Leguel, j'ai sans doute écorché votre nom, j'en suis désolée, qui s'occupe de la contraception et de la gynécologie de l'adolescence à l'hôpital Sud également.
Bonjour.
Bonsoir.
Alors, on aura également au cours de l'émission une interview de Brigitte Rocher, qui est directrice du planning familial de Rennes. Ça, c'est Aurélie qui s'en est occupée. Et également, du côté des politiques, la députée Isabelle Le Cannec, qui est donc députée UMP de la 5e circonscription d'Ille-et-Vilaine, qui fera un petit point aussi en interview. C'est Clémence, hein, tu l'as rencontrée.
Oui, oui. Et, on va, avec elle, on est surtout revenu sur le fait que sur l'amendement qu'elle a déposé avec d'autres députés pour le déremboursement de l'IVG. Donc, voilà. Mais je vous en parlerai plus tard.
Eh bien, le sommaire est fait.
Le sommaire est fait. Univox. On a deux invités, deux gynécologues en plateau, donc peut-être juste présenter le travail que vous menez au sein de l'hôpital Sud à Rennes.
Plus que me présenter, j'ai présenté surtout le service dans lequel je travaille. Donc je suis responsable du service du centre IVG de l'hôpital Sud à Rennes. Ce service s'occupe d'environ 2000 patientes qui demandent une IVG par an. Donc on répond à la demande de l'IVG en répondant aux recommandations, soit une IVG par aspiration, qu'on dit l'IVG chirurgicale, ou l'IVG par médicament, donc IVG médicamenteuse, en fonction du terme de la demande d'interruption de grossesse.
Alors, je travaille également avec le docteur Lavoué, et je suis gynécologue qui m'occupe particulièrement des adolescentes, et j'essaye de mettre en place une prise en charge dédiée aux adolescentes qui ont à avoir recours à l'IVG, notamment pour le suivi en amont, mais surtout en aval, puisqu'on sait que ce sont des jeunes filles qui ont souvent recours à plusieurs fois à l'IVG et qui ont un risque de grossesse accru, notamment lorsqu'il y a des rapports sexuels précoces.
Sur les dernières années, est-ce que vous notez une régression ou une amélioration de la prise en charge des interventions, aussi bien sur le plan médical, c'est-à-dire est-ce qu'il y a assez de lieux d'accueil ou pas, et sur le plan informatif, est-ce que les femmes qui viennent ont eu assez accès à l'information, et sur le plan psychologique, le suivi, etc.
Donc sur le plan, on va dire sur le territoire Ille-et-Vilaine et Bretagne en plus général, il y a probablement une dégradation sur le territoire. Alors, je ne vais pas parler de ma structure qui fonctionne. Donc, au niveau d'Hôpital Sud, on fait l'accueil sans variation depuis la loi 75, en gros. Le problème sur le maillage, c'est le désengagement de deux types de structures. La structure privée, les structures privées qui se désengagent de l'IVG parce qu'elle n'est pas financièrement rentable pour une structure privée et même publique. Et aussi le désengagement des structures hospitalières de petite taille, qui permettait un accès sur tout l'ensemble du maillage du territoire à tout le monde et qui se désengage de cette activité. Donc la dégradation est surtout à ce niveau-là.
Non, en ce qui concerne les adolescentes, parce que c'est vraiment cette population qui m'intéresse particulièrement, l'accès à l'IVG, je pense que dans notre département est facile. Il y a beaucoup de structures pour les accueillir. Encore faut-il qu'elles aient l'information. Et ça, c'est deux choses qui se font, notamment au niveau scolaire. Et moi, dans les consultations que j'ai, qui sont des consultations d'urgence, bien sûr, je m'aperçois que ce sont des jeunes filles qui manquent d'informations, alors que on a des structures en place, mais elles n'en ont pas forcément la connaissance. C'est surtout ça.
Et d'ailleurs, qui dit information dit planning familial. Et justement, Aurélie.
J'avais juste une petite question, à savoir, quand même, pour rappel, pour tout le monde, l'IVG, c'est gratuit, anonyme ?
Alors, c'est gratuit depuis mars 2013 seulement, totalement. Pour les mineurs, c'était gratuit depuis 84 exactement. Depuis que l'IVG est remboursé. Et c'est maintenant gratuit pour tout le monde depuis mars 2013 avec la loi, je ne sais plus le nom de la loi, mais qui est passée en mars 2013.
D'accord.
D'accord, donc du coup, on va faire un petit tour vers le planning familial. Aurélie, tu es partie en reportage.
Alors oui, je suis allée au planning familial, donc structure ouverte depuis 1965 à Rennes, pour m'entretenir avec sa directrice Brigitte Rocher. Alors, il faut savoir qu'en France, une femme sur trois a recours à l'IVG, et on dénombre pas moins de 222 000 IVG par an. Donc, c'est un chiffre qui n'a pas vraiment évolué depuis 1975. Et je me suis donc demandé si la tendance était la même à Rennes. Et je vais donc vous laisser entendre la réponse de Brigitte Rocher.
Les chiffres sont stables au niveau de l'IVG, mais c'est vrai qu'il y a quand même une grande différence avec les années 70 dont on vous parlait. Puisqu'en fait, les chiffres aujourd'hui sont effectivement, on est autour de 220 000 IVG pour 800 000 naissances et ça n'a pas bougé. Et pourquoi ça ne bouge pas ? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a quand même une grande différence, c'est ce que je disais avec les années 70, parce qu'aujourd'hui, 80% des femmes qui pratiquent une IVG ont une contraception. Donc c'est le grand changement. Et c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, la contraception, elle n'est pas forcément toujours adaptée. Il peut y avoir aussi un raté dans la prise d'une contraception, mais le contexte n'est quand même pas du tout le même. Et quand même, avant la loi, il faut dire quand même qu'il y avait 800 000 IVG en France, donc ce qui n'est pas du tout la même chose.
Vous avez quelque chose à ajouter là-dessus ?
Oui et non. Enfin, c'est la différence par rapport aux années 70, c'est que le nombre de grossesses non programmées a diminué. Dans les années 70, il y avait une grossesse sur deux qui était non programmée. Maintenant, on a une sur trois. Et la grande différence par rapport aux années 70, c'est que en cas de grossesse non programmée, avec l'évolution sociétale, on a des grossesses plus tard, il y a les études qui s'allongent, on a plus souvent recours à l'IVG. Donc c'est vraiment l'enfant est souhaité à un moment voulu, si ce n'est pas ce moment-là, on recourt plus souvent à l'IVG qu'auparavant. Mais le nombre de grossesses non programmées, grâce à l'extension de la couverture de la contraception, a diminué.
D'accord. Alors maintenant, nous allons passer à une question concernant le déremboursement de l'IVG, puisque des députés UMP ont déposé un amendement visant au déremboursement de cet IVG, qui est un droit acquis depuis 1982. Je pense qu'il est important de le rappeler. Donc j'ai demandé à Brigitte Rocher quelles seraient les conséquences pour un planning familial s'il y avait justement un déremboursement de cet IVG.
Déjà, il faut dire que ça a toujours été un combat du planning familial, le remboursement de l'IVG comme un acte, comme un autre acte pris en charge par la sécurité sociale. Et en fait, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont confrontés aussi aux IVG et que la prise en charge pour les jeunes, je ne parle pas forcément des jeunes mineurs, mais des jeunes majeurs qui sont souvent déjà en situation de précarité, eh bien ce serait une grosse difficulté parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas d'argent pour aller à la pêche d'une rentrée financière, c'est pas forcément évident. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça implique que des personnes peut-être seraient amenées à garder leur grossesse si elles ne désirent pas, c'est quand même dramatique. Voilà, donc la prise en charge par la sécurité sociale et le remboursement de l'IVG, c'était un combat. Ce sont des lois qu'il faut conserver de la même façon qu'une loi sur l'IVG. Il ne faut pas la remettre en cause. Donc je pense que les avancées de la loi, ce sont des avancées pour l'ensemble des personnes, qu'on soit jeune ou moins jeune, parce qu'en fait, je parle des jeunes, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans des situations difficiles. Et bien, parfois aussi, dans les 200 000 IVG qu'on peut avoir, on peut aussi décider de ne pas garder une grossesse parce qu'on a des difficultés financières. Ça peut aussi être un des éléments qui font qu'une femme, un couple ne désire pas garder une grossesse. Donc je pense que là, ce serait un recul et un retour en arrière dramatique, hein, parce que de toute façon, cette situation, ce n'est pas normal d'être dans des positionnements comme celui-là.
Alors, est-ce que vous partagez également l'avis de Madame Rocher ?
Bien entendu, mais pour moi, ce genre de proposition de dérembourser l'IVG, c'est de l'ordre de la provocation. Donc, ça paraît fou en 2014, maintenant, de pouvoir proposer de telles... Déjà, de pouvoir le dire, tout simplement, et ensuite, et surtout des élus puissent le dire. Ensuite, il faut rappeler que, qu'elle soit remboursée ou pas, si une dame a décidé de ne pas garder sa grossesse, elle le fera, de toute façon. Donc, l'action financière n'aura pas d'impact sur le nombre d'IVG. On a toujours le mythe de l'IVG de confort, mais c'est faux. Ensuite, si justement Brigitte Rocher parlait de problèmes financiers, c'est rajouté à la difficulté aux difficultés, c'est vraiment pas nécessaire.
On peut voir sur Internet plusieurs témoignages de femmes qui ont rencontré des problèmes pour avorter, notamment par le manque d'informations, mais aussi via des résistances de la part de professionnels. Et en parlant de ces professionnels, je voulais savoir si on pouvait être confronté à ce genre de choses à Rennes, et voilà la réponse de Brigitte Rocher.
Alors moi, je n'ai pas fait une enquête. Il faut savoir que normalement, dans les centres de planification, ce sont des personnes quand même qui sont formées, et donc de par l'accueil et le métier, déjà que ce soit une conseillère ou une psychologue ou autre personne qui sont susceptibles de répondre à une demande d'information ou d'orientation par rapport à l'IVG, il faut que cette information soit fiable, et on n'a pas non plus à donner son sentiment ou un avis personnel par rapport à une demande qui est une demande d'information, une demande d'orientation. D'ailleurs, au niveau plutôt départemental et même régional, on a plutôt cette volonté de former l'ensemble des personnes qui sont susceptibles de répondre à une demande d'IVG pour justement donner la meilleure information et la meilleure orientation possible. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui effectivement sollicite, questionne par rapport à une orientation sur l'IVG, eh bien, c'est une personne qui ne sait pas. Donc il faut quand même l'informer correctement. Et donc nous, effectivement, on travaille sur le sujet, mais pas tout seul. C'est vrai que l'association, elle est volontaire par rapport à cela, mais en lien avec d'autres professionnels, et en particulier aussi avec l'Agence régionale de santé, qui s'interroge aussi de ces questions-là, parce que c'est vrai qu'on se doit de donner la bonne information.
On parlait du planning familial, de l'accueil par le planning familial, mais d'un point de vue médical, on sait qu'il existe chez les médecins une clause de conscience, c'est-à-dire qu'ils peuvent refuser un acte médical qui est contraire à leurs convictions personnelles. Est-ce que ça peut poser problème par rapport à l'IVG ? C'est-à-dire que je pense notamment à des jeunes filles qui seraient isolées dans des villages, parce qu'autant en ville, on peut peut-être se retourner vers un autre médecin. Mais est-ce qu'il y a des endroits où vous avez été confronté à ce type de problème, de patientes qui venaient, qui avaient été confrontées à des personnes qui avaient exercé leur droit de retrait ?
Alors, de mon expérience, il s'agit plus d'un manque d'information que d'une volonté de ne pas faire pratiquer une IVG, en tout cas chez les adolescentes ou les jeunes filles qui sont confrontées à cette situation. J'ai rencontré plusieurs jeunes filles en consultation qui étaient totalement désorientées, sans information, qui avaient pourtant rencontré leur médecin, mais qui eux-mêmes sont mal à l'aise avec la prise en charge d'une grossesse chez une jeune fille. Donc c'est plus un problème d'information qu'un problème une question de conviction personnelle, de l'expérience que j'ai.
D'accord. Un médecin qui décide qui utilise sa clause de retrait, est-ce qu'il est obligé de renvoyer vers un autre médecin ? C'est quoi son obligation légale ?
Il est obligé d'informer. Si lui ne souhaite pas pratiquer l'acte, c'est son droit, mais par contre, il est obligé d'informer correctement la patiente et de lui donner les clés pour qu'elle puisse rencontrer les professionnels qui pourront l'aider.
Alors, le fait de recommencer à avoir des débats sur l'IVG, le droit à l'IVG, m'a fait me poser la question ce genre de débat pouvait changer quelque chose à l'échelle d'un planning familial, par exemple d'un point de vue éducatif, ou ne serait-ce que par rapport aux questions qui peuvent être posées à ces professionnels. J'ai donc posé cette question à Brigitte Rocher et voici sa réponse.
Pour nous, le travail éducatif ou la prise en charge des personnes, elle est toujours la même. Nous, on a quand même une idéologie. On a lutté pendant des années pour le droit à l'IVG. Et donc, ce combat-là, il est présent, omniprésent même au planning familial. Donc, on travaille tous les jours ces questions, puisque tous les jours, on a des jeunes qui se présentent, par exemple, ici au planning, ne serait-ce que pour un test de grossesse. Les demandes d'IVG, que ce soit pour les jeunes ou les moins jeunes, on les honore. corps, bien évidemment, c'est-à-dire qu'on informe forcément et on accueille et on a de la bienveillance par rapport à toute personne qui sont face à cette demande. Et on est aussi tous les jours présents au centre IVG. Donc notre accompagnement et la prise en charge et l'information auprès des personnes, elle ne changera pas. Après, s'il y a des interrogations ou des inquiétudes, on sera là pour rassurer les gens, pour dire qu'effectivement, ici au planning, on accueillera toujours les personnes. Ça fait vraiment partie non seulement de notre métier, mais ça fait aussi partie de nos engagements. Défendre le droit à l'IVG, ça fait vraiment partie des luttes du planning. Donc de toute façon, le débat nous permet de renforcer, parce qu'on a toujours défendu, hein, ça c'est évident. On a toujours été présents, on s'est associé aux associations, notamment lors de deux manifestations à Rennes, mais on était aussi présents à Paris, puisque la Confédération nationale du planning familial de Paris donc a proposé aussi une manifestation il y a 15 jours. Donc l'ensemble des associations départementales ou bien se sont réunies et ont manifesté le soutien à l'Espagne. Notre propos est notre lutte ne changera pas. Donc, on sera toujours là.
Brigitte Rocher, directrice du planning familial, parlait justement là de l'importance de la communication autour du droit à l'IVG. Une autre question qu'on pourrait soulever, c'est toute cette prolifération de faux sites internet, c'est-à-dire des sites internet pro-vie qui se font passer pour des sites officiels d'information, en sachant qu'en France, depuis quelques semaines seulement, on a un site gouvernemental officiel qui, heureusement, est très bien fait, mais qu'il faut tout doucement commencer à référencer. Il arrive en tête, là, a priori, tant mieux. Est-ce que vous, en tant que médecin gynécologue, vous avez déjà été confrontée à des patientes qui avaient été regardées sur Internet et qui étaient tombées sur le premier site qui apparaissait, c'est-à-dire un site pro-vie qui se faisait passer pour un site neutre et qui, en fait, cherchait à culpabiliser et à n'apporter que des témoignages négatifs de personnes qui avaient eu recours à un avortement.
C'est difficile de vous répondre parce que les patients qui arrivent au centre IVG ont trouvé l'information. Mmh. Donc, je n'ai pas celles qui n'y arrivent pas. Donc, c'est ça qui pose problème. Après, je suis d'accord que les mouvements anti-IVG ont une approche beaucoup plus larvée qu'auparavant. Avant, vous avez des manifestations très visibles, donc qui provoquaient le rejet d'emblée.
C'était identifiable, quoi.
Ouais. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Et même, j'ai des approches un petit peu plus contournées, où on m'a même proposé de poser des tracts de contraception dans le centre IVG. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et sauf que je me suis rendu compte que ça émanait de sites comme celui-ci, Provie. Donc l'approche est beaucoup plus sournoise qu'auparavant. Maintenant, les patientes, ça reste comme des patientes jeunes, elles trouvent l'information via Internet assez facilement. Nous, à Rennes, on a essayé évidemment de donner une information par notre propre site Internet du CHU de Rennes et de la maternité pour donner des informations vraies. Déjà nous trouver les numéros de téléphone et les documents qu'il faut avoir pour accéder à l'IVG. Donc c'était une forme de réponse pour donner juste une très simple, pratique, comment on fait et où il faut aller. Maintenant, on finit par obtenir les informations maintenant à peu près clairement.
D'accord, chez les très jeunes patients.
Chez les très jeunes, alors bien que très fervente d'Internet, je n'ai pas rencontré ce problème-là. C'est plutôt vraiment un problème d'information de façon générale, mais pas de fausses, de désinformation, de fausses informations.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Suite à l'enlèvement de la notion de détresse par le gouvernement dans la loi de Simone Veil, qui date, je le rappelle, de 1975, pour la remplacer par le droit des femmes de choisir ou non de poursuivre une grossesse, quelques députés UMP et UDI ont choisi de voter contre, mais ils ont aussi déposé un amendement pour dérembourser l'IVG, expliquant selon eux que si la notion de détresse est supprimée, les conditions de remboursement de l'acte par la Sécurité sociale ne sont plus remplies. Isabelle Lecalenec, députée de la 5e circonscription d'Ille-et-Vilaine, revient sur la suppression de cette notion et de la crainte, selon elle, d'une banalisation de l'IVG.
Quand on a vu cet amendement déposé par quelques députés socialistes, on a craint la banalisation de l'IVG. Puisque vous savez que dans la loi Veil, il est question de l'IVG pour des femmes en situation de détresse. Et l'amendement déposé par les socialistes voulait retirer cette notion de détresse de la loi. Il se trouve qu'aujourd'hui en France, il y a 220 000 IVG chaque année. Et renseignement pris, on ne refuse jamais à une femme un IVG. C'est de sa propre responsabilité, c'est sa liberté. Et toutes les femmes de France aujourd'hui, malgré cette notion de détresse qui est inscrite dans la loi, a accès à l'IVG. Donc, on a voulu nous faire croire que dans notre pays, il y avait des restrictions à cause de la loi Veil. C'est faux. Les femmes, en toute liberté, peuvent accéder à l'IVG. Mais moi, je me suis posé une question à l'occasion du dépôt de cet amendement. Je me suis renseignée et je regrette qu'on n'ait pas pu avoir le débat à l'Assemblée. 220 000 IVG par an, c'est beaucoup. Il faut savoir que parmi les personnes qui demandent un IVG, il y a beaucoup de mineurs. L'amendement qui a mis un petit peu le feu aux poudres, moi je l'ai pris comme un signal à envoyer au gouvernement. Je vous dis, malgré le fait qu'on n'a pas pu avoir de débat, ce que j'ai vraiment déploré, pour dire attention, il ne faut pas le banaliser, et il faut vraiment se poser à ce moment-là la question. Alors moi je me suis renseignée encore une fois auprès d'un gynécologue obstétricien. On m'a dit que lorsque vous étiez mineur, vous pouviez bénéficier d'un entretien. Si vous arrivez, que vous demandez donc un IVG, vous avez un entretien. Et vous discutez de cette situation pour vous accompagner dans votre choix, qui est un choix difficile. Par contre, quand vous êtes adulte, cet entretien n'est pas obligatoire et il peut ne pas avoir lieu. Moi, j'observe sur mon territoire, dans le pays de Vitré, tous les deux ans, on fait un grand forum à destination des jeunes collégiens et des lycéens. On appelle ça Printemps Santé, où on fait beaucoup de prévention aux conduites addictives, à la conduite en état d'ivresse, voilà tout ça. Et bien sûr, on parle de l'interruption volontaire de grossesse avec des conseillers du planning familial. Donc moi, je trouve qu'ils font un travail remarquable sur les territoires. Et donc, c'est une manifestation qui rencontre un grand succès. Donc ça, moi, j'y crois. Et ça, je pense qu'il faut donner des moyens pour que ce genre de choses puissent se faire au plus près des territoires, au plus près des jeunes et de leurs familles. Comme vous le disiez, effectivement, cette notion de détresse, elle est de fait. Quand on vient demander un IVG, moi je considère qu'on est en détresse. Alors pourquoi l'avoir enlevé? Pourquoi avoir créé ce débat? Mais à la faveur d'un tout petit amendement de rien du tout sur un sujet aussi grave. Ça ne changera rien sur les faits. Juste, il y a cette question quand même qui n'a pas été posée de la clause de conscience des médecins. Il y a quand même des questions qui se posent parce que c'est pas partout en France de la même manière, peut-être pas partout dans les hôpitaux de la même manière. Et donc on n'a pas pu en discuter avec la ministre de la Santé. On n'a pas pu, puisque, je lui dis, c'est parti comme on sait. Et ce sont des vraies questions. On est donc dans un pays où, normalement, cette loi s'applique à tous de la même manière. Eh bien, je pense qu'elle n'est pas vécue de la même manière. Donc, moi, je vous disais, j'ai interrogé un gynécologue obstétricien, puis un deuxième. J'ai pas eu la même version. Après, j'ai interrogé des sages-femmes sur ces sujets-là aussi. J'ai eu plusieurs versions. Donc ça veut dire que il y a la loi Veil. Enfin, il y avait la loi Veil. On a juste retiré ce mot de détresse. Bon, voilà. Mais apparemment, on n'a pas, en retirant ce mot de détresse, épuisé toutes les questions qui se posent autour de l'IVG. Mais c'est donc tellement sensible que c'est pas juste une question on est pour, on est contre, on est pour le remboursement, pour le déremboursement. Je pense que vous avez une infime minorité de personnes qui sont pour le déremboursement de l'IVG. Donc encore une fois, qu'on ne caricature pas. Comme c'est quelque chose, un acte lourd de prendre cette décision, puisqu'on la prend dans un contexte particulier, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'un accompagnement de la personne. Est-ce que cet accompagnement aujourd'hui, il est bien fait en France? Je ne sais pas vous répondre. Je pense qu'il faut qu'on se préoccupe de ça. Voilà, et je trouve dommage qu'on soit parti sur ça, avec des manifestations, des pour, des contre, alors que c'est un vrai sujet de société, à manier avec une extrême précaution, tout simplement parce qu'effectivement, c'est douloureux. Et encore une fois, ce n'est pas un acte banal. Donc c'est ce que on a voulu exprimer. La loi Veil, enfin je veux dire, elle est inscrite, je dirais, dans notre ADN. Enfin moi je suis originaire de l'UDF et je peux vous dire que Simone Veil pour nous c'est une figure emblématique, mais un exemple extraordinaire quand on s'engage en politique. Simone Veil, enfin moi vous me posez la question qui m'avait d'ailleurs été posée, quelle est la femme politique que vous admirez le plus? C'est Simone Veil. Donc vous voyez, ça m'a en plus tellement touchée d'être accusée, entre guillemets, de vouloir revenir sur la veille, de la remettre en cause. Enfin, c'est, les attaques auxquelles on a eu à faire face, elles étaient encore plus difficiles. Je dis, moi, je voue une admiration sans limite pour Simone Veil. Et donc, j'étais accusée de remettre en cause sa loi. Enfin, c'était du délire, quoi.
C'est quand même paradoxal ce que Isabelle Le Callennec dit, c'est-à-dire que d'un côté, elle remet en cause le fait qu'il y ait eu des manifestations, des pour, des contre, ouais. Et en même temps, elle n'arrête pas de souligner que c'est une loi qui est... C'est un sujet très sensible, avec plein de questions qui n'ont pas été, mises dans le débat, donc elle pointe quand même une problématique du doigt. Et moi, je voudrais revenir sur cette notion de situation de détresse et sur tous les débats qui ont eu lieu autour. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression qu'il y a une image fantasmée des femmes qui ont recours à l'IVG. C'est soit elles sont dans une situation de détresse, soit elles sont dans une situation où elles devraient être un peu dans un sentiment de culpabilité. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, en tant que médecin, qu'il y a un peu trop d'émotions autour de cet acte?
Plusieurs choses. La détresse, entre guillemets, supposée ressentie par les patientes, dépend énormément déjà de l'âge à laquelle la dame recourt à l'IVG. Il faut bien voir que l'âge social de l'enfant, c'est, on va dire, c'est autour de 30 ans. On y met une jeune fille enceinte au lycée, par exemple, va être extrêmement stigmatisée. Et l'IVG va être beaucoup mieux acceptée dans ces âges-là, par exemple. De même, à des âges, on va dire, plus tardifs, en dehors de la fécondité, à 42, 44 ans. C'est des choses qui sont, du coup, vécues très différemment. Ensuite, on a, vis-à-vis de la prétendue culpabilisation de l'IVG, deux discours un petit peu opposés. Le discours qu'on a entendu de notre députée, qui a quand même une approche un petit peu curieuse de la question, qui est soit on doit culpabiliser, et un discours un petit peu extrémiste des mouvements féministes qui on ne doit pas culpabiliser. Il y a un entre-deux, mais dans aucun cas on arrive à prendre de manière neutre la question. Un certain nombre de femmes, pas toutes certainement, ont probablement besoin d'un accompagnement psychologique qui peut être amélioré. Voilà, il faut apprendre les choses de manière objective et simplement.
Sur l'accompagnement psychologique, il n'est pas obligatoire.
L'accompagnement psychologique, déjà qu'est-ce que c'est? Si on le réduit à l'entretien psychosocial par la conseillère conjugale, il est en effet n'est plus obligatoire. Il est juste proposé, il est encore obligatoire pour les patientes mineures. Mais c'est un entretien qui se fait très simplement et il n'y a pas, de problème pour y accéder. Mais c'est peut-être pas au moment de l'IVG qu'est le besoin de leur
prise en charge psychologique. Oui, pardon, je me suis mal exprimée. Moi, je parlais de cette période-là, en fait. Excusez-moi, je pensais que... Oui, je parlais justement de l'accompagnement psychologique après IVG. Il n'est pas obligatoire, ou est-ce qu'il est obligatoire pour les mineurs et pas pour les majeurs?
Non, il n'est absolument pas obligatoire au décours de l'IVG. Une fois que la décision a été prise et l'acte réalisé, la patiente fait absolument ce qu'elle veut.
D'accord, et vous pensez quoi justement de ça, qu'il ne soit pas obligatoire? Parce qu'il y a pas mal de jeunes femmes qui n'ont pas souhaité se faire accompagner et qui finalement le regrettent derrière.
On ne peut pas imposer un accompagnement psychologique si la patiente... Il faut que la patiente le souhaite, autrement ça ne marche pas.
Est-ce qu'elle peut revenir après coup? Par exemple, si au bout d'un mois ou deux mois ou même un an, elle se rend compte qu'en fait elle n'a jamais digéré cette décision, qu'elle a besoin de se faire accompagner, est-ce que c'est possible pour cette patiente de revenir?
Bien sûr, c'est possible, et c'est surtout le rôle du médecin d'être à l'écoute de cette patiente et de savoir comment elle aura vécu son IVG, parce qu'on ne peut pas généraliser, comme on disait... comme Vincent disait, il y a deux courants. On ne peut pas dire que un IVG, c'est standard, tout va bien. Il y a des femmes qui le vivent très bien, mais il y en a d'autres pour qui ça implique un processus psychique compliqué, une perception corporelle aussi. Enfin, c'est des jeunes filles notamment qui n'ont pas forcément une image corporelle tout à fait complète. Ça peut être source d'angoisse par la suite. Et je pense que ce qui est très important pour ces patientes-là, c'est qu'elles comprennent que le médecin est à leur disposition et à leur écoute. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux jeunes filles, aux adolescentes que je vois en consultation, c'est que peut-être que maintenant elles n'ont pas besoin, mais qu'il y aura toujours quelqu'un et que je serai toujours là à leur disposition pour les recevoir et les entendre et revenir sur cet épisode de leur vie. Je pense que c'est ça qui est important. On ne peut pas leur imposer de revenir parce que de toute façon elles font ce qu'elles veulent. Et c'est leur liberté et c'est à nous d'accepter aussi ça, le fait qu'elles ne reviennent pas nous voir, mais qu'elles sachent que la porte est toujours ouverte. ça c'est important.
On parle de l'accompagnement des patientes, mais est-ce qu'il y a un accompagnement pour les conjoints quand il y a conjoint? C'est-à-dire comment ça se passe pour l'autre personne?
Pour l'homme.
Voilà, pour l'homme.
L'homme existe, est-ce qu'une grossesse ou un enfant se fait à deux? En fait, il n'y a pas beaucoup de place. Ça reste, il est bien entendu toujours accueilli, accompagnant son ami ou épouse ou concubine, je ne sais pas comment on
partenaire.
Doit, compagne, partenaire.
Sa meuf.
Voilà. Ça dépend de l'âge ou de la génération.
Sa fiancée, sa nana, sa copine, voilà. Sa petite amie.
Il y a plus c'est pour les romantiques.
Il y a plus de poésie d'un côté ou de l'autre, mais il a toujours sa place. Mais la décision est celle de la femme en première intention pour décider de garder ou pas sa grossesse. Donc c'est vrai que l'accompagnement s'adresse à la patiente d'abord. Les conjoints sont les bienvenus, mais ils sont peut-être un peu oubliés dans cette prise en charge.
Univox.
Bah, je vais continuer, même presque conclure sur cette émission spéciale Droit à l'IVG, avec donc nos deux invités, le docteur Vincent Lavoué et le docteur Marie-Catherine Vaudsan-Loguel, qui sont gynécologues à l'Hôpital Sud. Je voulais vous poser une question un peu plus pratique, parce qu'on est revenu sur les questions politiques, éthiques, médicales, etc. Là, si une femme se retrouve en situation de grossesse non désirée, en France, quelles sont les démarches à faire pour pouvoir bénéficier d'un IVG?
D'abord, il faut dater la grossesse. C'est possible de faire une IVG jusqu'à 12 semaines de grossesse, soit 14 semaines d'arrêt des règles. Il y a entre la demande d'IVG, c'est-à-dire consulter un médecin et qui fait courir le délai de réflexion de 7 jours, il lui remet un certificat, il faut qu'elle le demande à ce médecin comme quoi elle demande une IVG le jour où elle le voit, ce qui permet de commencer le délai de réflexion le plus tôt possible. Pendant ces 16 jours, elle a le temps de faire une échographie pour pouvoir faire la datation de la grossesse et s'assurer qu'elle est dans les délais légaux. Et ensuite, consulter dans un centre IVG qui fera l'IVG ou un autre médecin qui la pratiquera. Donc on va dire à Rennes, on peut aller à l'Hôpital Sud, 16 boulevard de Bulgarie, consulter au centre IVG dont le numéro de téléphone est le 02 99 26 59 23. Là, on lui programme l'IVG après, à l'issue de ces 16 jours de réflexion. On pourra faire l'IVG médicamenteuse si elle est en la première moitié du premier trimestre, une IVG par aspiration en deuxième moitié du premier trimestre. Et voilà. Et la prise en charge est totalement gratuite, quel que soit l'âge. Et pour les mineurs, il suffit de... Le consentement parental n'est pas nécessaire. Ils ne seront pas informés si la patiente ne le souhaite pas. Il faut juste être accompagné d'une personne de confiance majeure de son choix.
Alors moi, j'ai une petite question. Est-ce que, même si le délai n'est pas dépassé pour l'IVG médicamenteuse, est-ce que la patiente peut... formuler le souhait et voir son souhait accepté de faire une IVG par aspiration.
Oui, si c'est possible, c'est au choix de la patiente.
Ok. Et vous conseillez quoi, vous?
Les patientes préfèrent souvent l'IVG médicamenteuse.
D'accord.
Et aussi, je voulais savoir,
conseiller quoi plutôt
au niveau du délai de réflexion, si la période, par exemple, si on arrive à 11 semaines et quelques, il est obligatoire
si
aussi?
Si on arrive en terme limite, le délai est réduit à 48 heures et c'est déjà prévu par la loi. D'accord. Il n'y a aucun problème pour ça. Okay. On ne peut pas être hors délai si on est à 11 semaines et demie et on doit attendre 7 jours.
Un petit mot de conclusion, Aurore.
Je n'avais pas vraiment prévu de conclusion, mais
tu peux juste remercier nos invités.
Voilà, je remercie effectivement nos invités pour toutes ces explications. Ça fait du bien aussi d'avoir l'avis de médecins et non pas forcément de personnes qui ne sont pas très légitimes pour en parler. Donc ouais, là, au moins, on a une parole légitime et ça fait du bien, merci.
Légitime, médicale et rassurante.
Voilà, et rassurante.
Donc c'était une spéciale, une émission spéciale où on revenait évidemment sur l'interruption volontaire. De grossesse. Merci encore, très très bonne soirée. Et oui, notre réalisateur Nico nous fait signe que c'est fini. Effectivement, c'est fini. Et merci à lui d'ailleurs pour la réalisation de l'émission. Salut Clara,
bonne soirée.
Ciao.
Bonne soirée.
Bonne soirée.